Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Vous êtes, vous avez révolutionné le regard porté sur l'économie et la finance. Ça tombe bien parce qu'on parle un peu de révolution. Je me souviens que c'est vous qui avez été le premier ou l'un des premiers à annoncer la crise des subprimes, si je ne me trompe pas, hein, c'est juste.
Dans l'univers francophone, oui, certainement, oui.
Vous êtes anthropologue et sociologue de formation, chroniqueur au journal Le Monde et dans différents périodiques. Et vous êtes l'auteur d'un livre paru chez Fayard, « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ». Essai sur l'extinction de l'humanité. Alors justement, je ne sais pas si vous avez entendu ma réflexion, mais on a eu plein de témoignages dans la ligne de cœur de femmes, d'hommes qui ont été capables, alors qu'ils n'avaient rien pour eux, qu'ils avaient tout contre eux. Alors que l'homme, entre le 20e et le 21e siècle, vous serez d'accord avec moi, créatif, ingénieux, inventif, il a tout inventé, mais il n'est pas capable de lutter contre cette extinction, et peut-être que le dernier qui s'en va éteindre la lumière n'est pas si loin que ça. Pourquoi, à votre avis?
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a notre réflexion elle n'est pas simplement issue de notre culture occidentale. On a commencé à réfléchir à peu près dans des termes semblables aux nôtres en Chine bien avant, en fait. Nous réfléchissons depuis très longtemps, nous sommes arrivés à des conclusions qui sont des conclusions importantes, mais nous avons une difficulté à mettre cela en pratique. Il semble que les gens à qui nous confions le soin de mettre en application les conclusions arrivons, ne le font pas. Est-ce qu'ils sont pris dans des logiques différentes? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce que les gens qui pensent leur suggèrent? C'est un peu ce que Platon disait déjà il y a très longtemps. Il y a d'un côté les philosophes qui comprennent les choses, et puis de l'autre côté, il y a les princes qui le mettent en application. Et il remarquait que le contact ne se fait pas. Alors, il proposait que les princes deviennent philosophes une fois qu'ils sont devenus princes, ou qu'on demande à des philosophes un peu plus d'être princes. Je ne suis pas sûr que ce serait la solution. Il semble que nous avons une capacité à réfléchir, mais nous avons une difficulté à communiquer ça avec les actes que nous posons véritablement.
Alors, la question se pose parce que quand on s'adresse à des femmes et des hommes qui essayent d'évoluer, qui essayent de changer, qui doivent sortir d'une addiction, ce qui rend difficile tout cela, c'est la dépression, surtout quand elle est chronique. Est-ce que c'est aussi le cas pour le caractère universel de l'homme, cette dépression chronique que vous évoquez dans votre livre du reste?
Ce que j'évoque surtout, c'est ce qu'on peut appeler le clivage. On appelle exactement le clivage, mais si vous réfléchissez, en fait, c'est une réflexion qui date de très longtemps. Notre culture, on la voit apparaître pour la première fois chez Saint-Paul. Il utilise dans les termes que nous reprenons quand nous traduisons ce dont il parle. Nous parlons d'un conflit entre la chair et l'esprit. En fait, on parlerait maintenant plutôt d'un conflit entre nos motivations inconscientes et la manière, le résultat de nos délibérations. Des choses que nous voulons véritablement faire. Et ça, nous le savons, quand il s'agit de nos motivations inconscientes, de ce qu'Aristote appelle nos appétits, là, il y a une double demande de l'espèce sur nous, que nous nous reproduisions, et c'est une source de distraction considérable sur ce que nous essayons de faire, et aussi le souci, bien entendu, de notre survie personnelle, notre survie individuelle. Et tout cela, cet ensemble de considérations est très difficile à organiser ensemble. À tout moment, quand vous lisez les grandes histoires d'amour, c'est quelqu'un qui se donne un but dans la vie, un homme ou une femme, et puis il y a l'amour, il y a tout ce qui apparaît autour, les relations compliquées que nous avons avec les êtres autour de nous, et qui nous distrait de ces rails, nous tombons de ces rails en permanence.
Est-ce que vous pensez que, parce que c'est une question fondamentale, on a aujourd'hui les outils pour éviter que la race ne s'éteigne, qu'il y ait une extinction de la race, qu'elle ne s'éteigne, ou pas?
Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous avons les moyens véritablement? Même si nous mobilisons toutes nos ressources, tous nos cerveaux, toutes les décisions que nous pouvons prendre, est-ce que nous avons les moyens? Est-ce qu'une est même une manière aussi intelligente que la nôtre et qui utilise la raison de manière systématique, est-ce qu'elle a la capacité de s'empêcher de disparaître à terme? On parle des dinosaures, on sait qu'ils n'avaient pas la capacité de délibérer, de s'asseoir autour d'une table et de prendre des décisions. Mais la question qui se pose maintenant, c'est que nous avons cette capacité de délibérer. Nous pouvons nous asseoir autour d'une table, mais est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions? Est-ce qu'il n'y a pas un caractère un peu insoluble des problèmes que nous avons? Et ça, c'est une question que je suis en train d'essayer d'explorer maintenant. Est-ce que les problèmes qu'on a devant nous vont se
soi. Je vais vous demander de bouger un tout petit peu avec votre téléphone, Paul, parce que par moment on a des petites coupures. Je pense que Je pense que du côté de la France, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent, peut-être, je ne sais pas. Juste une chose, aujourd'hui, il y a l'information, je ne sais pas si c'était le cas aussi chez vous en France, qu'on a reçu chez nous, comme quoi la première migration était peut-être unique, c'était 80 000 ans avant notre ère, qui, semble-t-il, est une migration qui est venue du même lieu, avec des humains qui se sont tous déplacés en même temps. Ça, on arrive à savoir. Par contre, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Et dans votre livre, il y a des moments extraordinaires, par exemple, quand vous parlez du cerveau. Alors, vous dites que le cerveau, finalement, il réagit après l'acte, dans des circonstances et des situations concrètes. Ça voudrait dire qu'en fait, on peut rien faire? Ou bien vous êtes quand même un petit peu optimiste qu'il y aurait quelque chose à faire pour éviter que l'évolution ne nous mène dans le mur définitivement?
Non, parce que nous ne sommes pas tout à fait impuissants. Ce que nous avons compris récemment par les travaux des psychologues, c'est ce que nous appelons la conscience, et dans laquelle nous avions l'habitude de voir un conducteur assis sur le siège et qui manipule le volant, le changement de vitesse, etc. Nous sommes aperçus que son temps de réaction est un peu fort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a quand même, cette conscience a quand même la capacité d'enregistrer ce qui vient d'avoir lieu et pour la suite, d'enregistrer en mémoire ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est le délai. C'est le délai qui existe et qu'on constate et qui fait que, en fait, notre corps, pour reprendre cette distinction entre le corps et l'esprit, notre corps prend les décisions avant l'esprit. L'esprit peut enregistrer ça, renvoyer une information sous forme de peur, sous forme d'enthousiasme, etc., et qui va être, je dirais, va devenir partie de la combinaison de ce qu'on pourra faire par la suite, mais il y a ce temps de retard. Le premier chimiste, Lippet, croyait qu'il y avait un retard d'une demi-seconde entre ce que nous faisons et ce que nous avons l'impression de décider, mais les psychologues découvrent maintenant que ce temps peut être jusqu'à 10 secondes. Notre corps peut avoir décidé de faire des choses 10 secondes avant que nous ayons l'intention, avant que l'intention apparaisse à notre esprit que nous sommes en train de le faire.
Oui, c'est ça, comme si la volonté dépassait tout, mais pas le cerveau avait de la peine à suivre, quoi.
En réalité, cette notion de volonté, il faudrait vraiment la remettre à plat et d'essayer de voir ce qu'il en reste une fois qu'on comprend le fonctionnement réel de notre cerveau.
Dites-moi, Paul, quand vous avez entamé le dernier qui s'en va éteint la lumière, vous aviez une vision très différente de la vision que vous avez finalement aujourd'hui au terme de l'écriture de ce livre. De l'humain et de l'avenir de notre planète.
Ben oui, il faut dire que le désir d'écrire ce livre, ça a été un petit peu, je dirais, un peu le désespoir de me dire, voilà, l'information tombe, on nous dit que la température augmente à une vitesse qui est devenue non maîtrisée, des choses de ce genre-là, et nous sommes là à nous demander s'il faut voter pour un tel ou une autre personne, comme si nous avions tout le temps devant nous, comme si nous pouvions prendre notre temps sur toutes les décisions à prendre. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre en disant que si nous ne bougeons pas, si nous restons sur les rails où nous sommes maintenant, eh bien que c'est terminé. Et effectivement, tout le monde le sait, quand on écrit un livre, c'est comme le romancier qui parle de ces personnages qui prennent une vie en eux-mêmes, ça devient autre chose. Et là, alors, l'ayant conclu, je me suis dit, il y a là peut-être la matière à un sursaut, qu'on se rende compte des difficultés dans lesquelles nous sommes, bien sûr, ou bien, eh bien, qu'en fait, il y a un processus en parallèle, peut-être, qui est déjà en train d'avoir lieu, que nous faisons le deuil sur notre propre espèce, que nous nous habituons à l'idée que peut-être c'est terminé, et peut-être terminé bientôt.
Il y a quelque chose qui revient très fort dans votre livre, c'est cette omniprésence de la mortalité. C'est-à-dire du sentiment qu'on est mortel, qui fait que ça paralyse peut-être même les envies d'évoluer.
Oui, ça c'est la réflexion qui est juste, vraiment une réflexion essentielle de Nietzsche quand il nous parle de la tragédie antique. Il nous dit la tragédie antique, et au moins elle nous mettait le nez sur les problèmes de ceux qui sont les êtres humains. Et c'est-à-dire qu'il y a parfois des conflits qui sont simplement donnés dans les situations, comme quand on parle d'Antigone. Et qu'il y a des choses qui sont indonnées et qu'on ne peut pas résoudre, je dirais, par une réflexion sur soi-même, en pensant à un bonheur qui pourrait s'installer comme il y a une difficulté essentielle qui fait partie d'un donné qui nous est venu comme ça. Et malheureusement, les idées d'immortalité, que tout s'arrangera dans un autre monde plus tard, elles nous empêchent en fait de nous concentrer sur le monde sur lequel on est. Et nous obligent parfois, ou nous conduisent parfois à mettre entre parenthèses ces difficultés en disant, ben, dans 50 ans, je serai plus apte de toute manière.
Oui, c'est ça.
Les gens vont au ciel d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce manque de lucidité nous prive des moyens de vivre.
Une remarque de Jojo, et puis on va se quitter sur une dernière question. Il dit, moi je me pose une question, pourquoi les gens ont peur de l'extinction ? C'est bien simple, la toute grande majorité a des projets à court terme et avec des idées à faible rayon d'action. Et ma dernière question, ce sera, quel rôle vous pouvez, vous avez envie, vous Paul, de réserver à chacun dans cette lutte pour que ne s'éteigne pas cette espèce qui est la nôtre ?
C'est-à-dire qu'on se rende compte que ce monde que nous sommes, il est plein de possibilités et que c'est simplement parce que nous pensons à des avenirs, comme disait Keynes, l'économiste anglais, que nous hypothéquons, nous avons peur d'hypothéquer l'avenir alors que le présent, c'est vraiment ce dont il faudrait se préoccuper. Nous pourrions véritablement rapprocher le monde dans lequel nous vivons du paradis que nous imaginons comme ça. Mais au lieu d'aller chercher ailleurs, nous pourrions passer bien davantage dans la vie que nous vivons tous les jours.
Merci beaucoup, Paul Jorion. Je rappelle le titre de votre livre, Le dernier qui s'en va éteint la lumière, aux éditions Fayard. Merci infiniment d'être venu ce soir et bonne soirée à Paris. À bientôt. Au revoir.
Voilà. Au revoir.
Merci.